RMC Intégral Tour, Jean-François Pérez.
19h05 sur RMC, l'intégrale Tour de France jusqu'à 20h. Christophe Cessieux et son orchestre en direct dans un instant. Mais avant cela, et comme tous les soirs à cette heure-ci, le journal des sports version turbo. Marcel Fernandez et tout d'abord évidemment du tennis.
On va partir du côté de Wimbledon pour ce quart de finale entre Tsonga et Kohlschreiber. On va retrouver Eric Salio pour le quatrième set d'une rencontre très disputée.
Ah ouais, effectivement, puisque Tsonga a dû attendre le tie-break pour remporter le set numéro 1 et le set numéro 3. Entre temps, Kohlschreiber était revenu à un set partout 6-4, donc 2-7-1 Tsonga, mais c'est très compliqué. Je crois que Kohlschreiber est un joueur très très habile sur gazon et le Français doit s'en remettre souvent à son énorme première balle. Mais bon, il n'est plus qu'un set désormais d'une nouvelle accession dans le dernier carré de Wimbledon. 2-7-1 pour le Français et 2-1 dans le quatrième set.
Roger Federer lui bat un nouveau record. Il se qualifie pour la 32e demi-finale de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem en battant le record de Jimmy Connors et en atomisant Michael Hughes, ni en 3-7, 6-1, 6-2, 6-2. Federer qui rencontrera en demi-finale le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, vainqueur en 3 manches également de l'Allemand Florian Mayer. Le Tour de France est pour cette 4e étape une arrivée au sprint mouvementée. Victoire à Rouen de l'Allemand André Greipel devant l'Italien Petacchi et le Néerlandais Tom Wellers. Mais on retiendra surtout à 3 km de l'arrivée une chute spectaculaire impliquant notamment le champion du monde Mark Cavendish. Grosse frayeur mais rien de grave finalement pour le Britannique. Dans les derniers kilomètres, les sprinteurs étaient très nerveux. Du coup, pour les autres coureurs, il faut s'adapter, ça n'est jamais simple. On va écouter ce qu'en pense Jean-Christophe Perrault, le leader de l'équipe AG2R la mondiale.
C'est la première semaine du Tour, le but du jeu c'est presque de rester sur le vélo, c'est tellement nerveux que ça tombe tout le temps, on l'a encore vu sur le sprint final. Passer ces journées par terre, ça commence à être difficile.
Combien de fois vous êtes tombé depuis le début du Tour là ?
Ouais, 4 fois, rien que ça.
Jean-Christophe Perrault au micro de Pierre-Yves Leroux. Dans toutes les conversations ce soir, cette chute, pour le Belge Maxime Montfort de l'équipe Radio Shack, ça frotte beaucoup trop sur les fins d'étape.
Ouais, enfin bon, cette règle-là, elle est bien connue aussi de tous les coureurs. Elle a encore été mise en action hier. Donc je pense que jusqu'aux 3 km, il y a moins de risques qui sont pris. Et puis dans les 3 km, bah, c'est un peu des kamikazes. Hein. On le sait, il y en a même qui prennent une certaine distance de sécurité. Donc voilà, c'est comme ça.
Vous avez tout fait évidemment pour le protéger jusqu'à 4-5 km de l'arrivée avant de laisser la place aux équipes de sprinteurs. C'est un côté aussi un peu frustrant, hein, le protéger pendant plus de 200 km et dans les 5 derniers on peut tout perdre.
Ouais, mais bon, on peut pas rouler jusqu'à l'arrivée non plus parce que nous on fait un tempo mais qui est pas aussi élevé que celui des sprinteurs dans les 10 derniers kilomètres. Donc on s'est pas roulé toute la journée puis encore accéléré dans le final. Donc il y en a pour tout le monde quand même.
Vous n'êtes pas encore rusé là de protéger ce maillot alors qu'il faudra encore travailler après pour Frank Schleck dans la montagne?
Non, mais ça se passe bien. Comme je disais hier, c'est quand même un avantage d'avoir le maillot jaune parce qu'on a notre place en tête de peloton. Et aujourd'hui, comme c'était venteux et tout ça, on évite beaucoup de pièges. Et hier, on a évité les chutes, donc c'est pas mal.
Fabian Cancellara, lui, conserve le maillot jaune. Et puis, c'est demain qu'on connaîtra la sélection des 4 coureurs qui participeront aux Jeux Olympiques de Londres. Le foot et une information, RMC Sport, Didier Deschamps dira d'ici la fin de la semaine s'il accepte, oui ou non, d'entamer les négociations pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France. Selon nos informations, Deschamps a eu Laurent Blanc au téléphone depuis lundi et Blanc aurait prévenu Deschamps sur les difficultés à travailler avec le président Noël Le Graët. Et puis, c'est le 27 juillet que devrait se tenir la commission de discipline qui entendra Nasri, Ben Arfa, Menez et M. Villa. On en parlera dans l'after avec Christophe Dugarry, notamment à partir de 22h.
Martial, on va aller tout de suite à Wimbledon puisque Joe Wilfried Tsonga prend le large dans le quatrième set. Eric Salio.
Ah ouais, un break blanc, un break cadeau. Offert par Kohlschreiber. 3-1 désormais dans le quatrième set pour le Français qui, on l'appelle, hein, mène 2-1, ça se rapproche.
Parfait. Parfait, le tennis, on le suit évidemment tout au long de cette fin d'après-midi. Le basket avec la mauvaise nouvelle pour l'équipe de France et le forfait de Joachim Noah, le pivot des Bulls, officiellement forfait pour les Jeux de Londres, blessé à la cheville avec son club débimé. Noah n'a pas assez récupéré pour être compétitif à la fin du mois. Une absence et une façon de procéder qui laisse pas mal d'amertume à Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France.
Je suis déçu, je effectivement qu'il ne soit pas venu au moins pour essayer de travailler avec notre staff médical qui a déjà montré sa compétence et qui vraiment était motivé pour lui permettre de disputer les Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que personnellement, me disait que s'il faisait l'effort de venir en France, on allait vraiment nous mettre en œuvre pour que sa réalisation se fasse.
Vincent Collet qui répondait aux questions de Jérémy Pignard. C'est demain d'ailleurs qu'on devrait connaître la liste des 12 joueurs de l'équipe de France de basket sélectionnés pour Londres. Et puis une première, la participation d'un athlète paralympique au JO, Oscar Pistorius, qui court avec des prothèses aux jambes, courra le 400 mètres individuel et le relais 4x4 pour l'Afrique du Sud. Pistorius avait déjà participé l'an dernier au championnat du monde d'athlètes de Daegu, championnat du monde pour les valides. Ce sera donc les Jeux cette année, une belle promotion pour le handisport selon Christophe Lemaître, le double champion d'Europe du 100 mètres.
C'est bien d'avoir avec des handicaps capables de courir avec des valides. C'est prometteur pour ceux qui sont aussi en situation de handicap comme lui, qui font du sport et qui peuvent espérer un jour faire pareil, quoi.
Christophe Lemaître au micro de Julien Richard.
Qu'on retrouvera vendredi au Stade de France pour le meeting Areva. Merci Martial.
Salut, à demain.
À demain. Et puis cette dernière info, c'est quasiment fait. On n'attend plus que l'officialisation du club et du technicien en question. Eli Bop devrait devenir dans les heures qui viennent l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Allez, c'est l'heure de retrouver Christophe Cessieux et toute la Dream Team RMC Sport en direct de Rouen, ville arrivée de la 4e étape du Tour, et ville natale, mon cher Christophe, du président de la République, François Hollande.
Exactement.
De l'actrice Karine Viard.
Oui.
Ou encore de David Trézéguet. Eh oui.
Et savez-vous qui est le maire de Rouen?
Mais c'est notre ministre des Sports, Valérie Fourneron.
Exactement. Et savez-vous où est né l'ancien ministre des Sports?
David Douillet.
Oui.
Dans la région, mais peut-être pas à Rouen.
Et Rouen également.
À Rouen aussi. Ah, oui. Je savais qu'il était normand, mais pas à Rouen, forcément.
Et vous savez où est né Jacques Anquetil?
À Rouen.
Eh ben voilà. Il sait tout. Jeff.
C'est une ville riche en personnalités. Bref.
Exactement.
Des débats à venir jusqu'à 20h, Christophe. Ceci d'ailleurs tout de suite pour vous faire réagir au 32-16. Marc Cavendish, qui a été victime de la chute spectaculaire collective tout à l'heure, à quelques hectomètres de l'arrivée. Cavendish est-il en danger dans ce Tour de France? Et puis, faut-il réduire ces étapes qui s'étalent quand même un peu comme des pensums à 50 km?
Ben oui, on se pose la question, on va faire un peu de provoque ce soir. C'est vrai qu'on se régale pas forcément, on s'ennuie un peu dans ce début de Tour de France, sauf évidemment dans le final, où là il y a des chutes, il y a des attaques, il y a des trucs, mais c'est vrai qu'on pourrait réduire ça et transformer les étapes du Tour à une heure de course, ce serait pas mal. On en parle en tous les cas.
Pourquoi pas, 19h13, je te passe le relais, on revient à 20h pour Before London.
RMC, Intégral Tour. Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour de retour jusqu'à 20h, comme tous les soirs. C'est l'heure des débats avec toute la Dream Team au soir de cette 4e étape du Tour de France qui a donc mené le peloton de Abbeville jusqu'à Rouen, 214 km 500. Et la victoire du gorille de Rostock, André Greipel, le sprinter allemand qui a su profiter aujourd'hui de la chute qui a envoyé à terre Marc Cavendish à quelques kilomètres de l'arrivée, à 2 km 600 très exactement. Greipel qui remporte une deuxième victoire d'étape sur les routes du Tour après une première victoire l'an dernier. Alors pour avant d'attaquer sur le Tour de France, on va tout de suite aller faire un tour à Wimbledon parce que ça sent bon la demi.
Ça sent bon la qualif pour Joe qui s'est détaché déjà 5 jeux à 2 en 21 minutes. Il s'est détaché irrésistiblement donc dans cette 4e manche. C'est Kohlschreiber qui va servir pour tenter de réduire l'écart, mais derrière, je pense que Joe servira pour le match.
Ah bon?
Ben oui,
évidemment.
Il y a 5-3, il servira pour le match. Donc là, on sera là, bien sûr.
Bon, et ben on revient vers toi rapidement. Tu nous appelles, tu interviens, tu nous rentres dans le lard. N'hésite pas, Eric.
Absolument.
Hein, évidemment, parce que on n'a pas beaucoup. Ouais, on n'a pas beaucoup de Français qui frottent sur le Tour de France. On espère qu'il y aura un tennisman français qui va se frotter avec les meilleurs à Wimbledon. Tout de suite, Eric Salio. La Dream Team donc réunie au grand complet dans le petit camion RMC sur la ligne d'arrivée. Cyril Guimard, dit le druide, dit le petit Napoléon pour les intimes, et là en pleine forme. Ça va, Cyril?
Eh bien, je suis en pleine forme, tout va bien.
Prêt à frotter dans le débat?
Ouais, moi j'étais un sprinter donc je frottais.
Ouais, tu savais frotter. Tu avais une petite pointe de vitesse, disait Dimax, mais tu savais frotter. Il y en a un qui frottait pas, mais qui frotte depuis, c'est Luc Leblanc.
Je frottais pas.
Dans les arrivées au col, ça frotte moins.
Attends, je veux dire, déjà pour les étapes de plat, j'étais quand même bien placé. J'ai jamais été dans une chute.
T'as jamais été envoyé à
non.
terre?
Non, sauf en Hollande.
Ah, en Hollande.
En 96, la première étape, il flottait à bord. Non, mais Franchement, non, je me débrouillais pas trop mal.
D'accord. Et Thierry Bourguignon, hey, salut,
oui,
Thierry. Tu savais frotter, toi?
Bon, j'étais pas un gros frotteur, hein. Et Lucio non plus, mais on se débrouillait, voilà. C'est tout. J'entends comme sprinter, c'est pour aller frotter dans les sprints. Et on a vu qu'il n'y avait pas grand monde. Et c'est
quoi?
Peut-être parce qu'il y avait. De quoi? Quoi?
Attends,
quoi?
Non, rien, oui. Thierry, continue.
Ah, j'ai cru que tu m'interpellais. Non, mais je disais que c'est parce qu'il n'y a pas une grosse équipe qui prend les choses à cœur pour emmener son sprinter, que ça frotte de plus en plus et que les gars veulent remonter et boum ça tombe.
Et oui, comme ça. Et boum ça tombe. Alors,
s'il y avait une grande équipe, une belle équipe qui emmenait son sprinter, tout le monde en ligne, rien ne bouge.
Évidemment, ce qui se faisait régulièrement les années précédentes. On repart à Wimbledon. Ça y est, c'est dans la poche, Eric?
Non, à deux points du match.
D'accord.
À deux points du match. Il y a 0-30 sur sa vie de Philippe Kohlschreiber, qui est en train de s'éteindre progressivement dans ce quart de finale où il a tenu, mais c'est vrai que dans les tie-breaks, le français lui a été supérieur, mais c'est pas forcément hasard, puisque quand on regarde les face-à-face, il n'a jamais gagné un tie-break face au français Kohlschreiber, donc il fait un petit complet. 15-30, on n'est pas encore sur balle de match, Christophe, mais ça ne serait tardé.
On va rester avec 15-30. Toi, là, on est à deux points du match.
Et puis, important, sur le central, donc à quelques centaines de mètres de là, Andy Murray a pris l'ascendant sur David Ferrer, puisque l'Écossais mène désormais deux manches à une. Mais alors, c'est un combat de chiens, passez-moi l'expression. Les deux tie-breaks pour commencer, un pour chacun, même si Ferrer a une balle de 2-7-0. Mais dans le troisième set, Andy Murray semble se diriger, enfin dans le quatrième, après avoir pris le troisième, il semble se diriger vers une qualif. Donc, on pourrait avoir un Murray de Tsonga. Évidemment,
ce sera sur le central, hein, évidemment,
oui, là,
parce que Murray, là, il est toujours sur le central, lui. Hein.
Sauf lundi, d'ailleurs, ça avait fait un petit peu polémique, mais là, évidemment, ce serait sur le central. Après, je pense, la première demi de rêve entre Djokovic et Roger Federer. Donc 5-2, 30-30, Kohlschreiber qui tente de repousser l'échéance, mais c'est vrai que là, il est quand même le dos au mur, il a surtout, voilà, balle de match, la première balle de match pour Joe Wilfried Tsonga sur une erreur en coup droit de Kohlschreiber, qui on voit bien, n'y croit plus. Il a laissé filer sa chance peut-être dans le tie-break, même s'il n'a pas grand chose à se reprocher, parce que Joe, il a su servir les grosses premières, c'est son arme principale sur herbe, c'est pour ça qu'il est si costaud sur gazon, c'est pour ça qu'il va peut-être se qualifier pour sa deuxième demi-finale d'affilée ici à Wimbledon face à Kohlschreiber. Balle de match, première balle, elle est dedans. Kohlschreiber qui va diriger les chances en coup droit, il monte au filet, volé, allez, passing peut-être de Joe, il va finir là-dessus, là. Voilà, elle est bonne. C'est gagné pour Tsonga en 4 manches. Victoire du français, donc Joe Wilfried Tsonga, 7-6, 4-6, 7-6, 6-2. Il est en demi et on va attendre son adversaire avec gourmandise.
Avec gourmandise, et cette demi-finale aura lieu vendredi, Eric. On la suivra, oui, évidemment, dans ses grandes largeurs, dans l'intégral tour.
Il est à genoux, il s'est mis une génuflexion et là, la danse des pouces pour Joe. Il rayonne, il jouera sur Central vendredi.
Ah, ce sera beau. Et on va suivre ça et on vivra ça avec toi. Évidemment, face à Murray, ce sera pas facile. Murray, quatrième mondial. Mais, avec la forme que tient Joe Wilfried Tsonga, sait-on jamais, pour une place en finale, ce serait quand même beau. Merci, Eric. Qualification donc de Joe Wilfried Tsonga. C'est la bonne nouvelle du jour. Qualifié pour les demi-finales du tournoi de Wimbledon. Cyril Guimard, c'est bien Tsonga en demi-finale. Ce serait bien d'avoir des coureurs français. Meilleurs du Tour de France.
Je suis tout à fait d'accord que c'est très très bien pour Tsonga. C'est pas une raison pour le comparer à nos coureurs français, quand même. Hein.
Bon, allez, on revient à nos débats. On va donc évoquer Cavendish qui a chuté lourdement aujourd'hui à 2,5 km de l'arrivée, qui a été pris dans une chute qui a envoyé pas mal de monde au tapis. Alors, on se pose la question de savoir si Cavendish est en danger sur ce tour, Cyril, Luc et Thierry. Parce que évidemment, il n'a pas d'équipe pour l'amener en haut du sprint, donc il prend pas mal de risques et on se demande s'il n'est pas en danger, si ça risque pas de se reproduire. C'est pas la première fois, Cyril, qu'il chute cette année, pas sur le Tour de France, mais il en est à pas mal de gamelles.
Il est rendu à 4 grosses gamelles dans les 200 derniers mètres, soit comme aujourd'hui à 2,6 km de l'arrivée, mais il peut être en danger dans la mesure où il n'a pas une équipe qui l'emmène comme d'habitude, mais il y a des chutes où il était bien emmené et où il est allé par terre. Puis aujourd'hui, s'il est allé par terre, c'est quand même un de ses équipiers qui l'envoie par terre.
Ah ouais.
Car c'est en fait Bernard Hazel qui vient percuter Hunter qui était juste devant lui, envoyant Hunter par terre d'ailleurs. Donc c'est son poisson pilote qui fait la faute aujourd'hui. Qui fait la faute et qui envoie donc une vingtaine, j'en ai coché 19 qui sont allés par terre, alors plus ou moins lourdement bien sûr. Mais c'est quand même, j'ai presque envie de dire, c'est presque Cavendish ou son poisson pilote qui sont responsables de cette chute. Et c'est pas la première fois que Cavendish est responsable de chute ou de ses équipiers. Rappelez-vous, il y a 2 ans, c'était Renshaw qui donnait des coups de boule. Là, c'est Bernard Hazel qui a sans doute voulu passer en force. On sait pas très bien. Lui-même s'en rappelle plus de trop d'ailleurs. Mais ce qu'il sait, c'est que c'est lui qui a percuté Hunter. Donc,
oui, c'est bon, il est tombe d'abord.
Comment?
C'est Hunter qui tombe.
Non, c'est lui qui tape dans Hunter. Ouais. Alors, Thierry... Non, mais attends, Thierry, moi je veux bien que tu me contredises. C'est ce qu'a dit Hazel.
Ah, bon.
Ok. Donc c'est Hazel qui dit, non, je sais pas comment, je suis rentré dans Hunter. Alors effectivement, oui, mais... on voit Hunter partir, mais c'est Hazel qui le fait tomber, c'est lui qui le dit. Et il dit même, je suis responsable de la chute.
Bon, alors, y a-t-il trop de nervosité? Cavendish est-il en danger? Quand on n'est pas protégé, Thierry, par toute son équipe, on est plus en danger que lorsque on a toute son équipe autour de soi. Je veux dire, quand il y en a un qui tombe, que ce soit un coéquipier ou lui-même, je veux dire, c'est... Je vois pas la différence quand on a une équipe autour de soi ou pas d'équipe autour de soi. Explique-moi.
Quand on a une équipe qui emmène, on est dans la roue de l'équipe et l'équipe roule tellement vite que les autres ont du mal à remonter. Donc le principe, c'est de rester devant et il n'y a personne qui vient trop te frotter. Alors que si tu es dans le gros du paquet, du moins juste derrière l'équipe qui roule, et bien c'est là que tout le monde cherche sa place et joue des épaules pour trouver la bonne roue et se mettre dans les meilleures conditions. Mmh. Voilà, c'est simplement la solution. D'ailleurs, l'équipe qui roulait, c'est l'équipe Lotto à ce moment-là. Hein, je crois bien.
Ouais, bien sûr.
Et Greipel, il était à l'abri. Il était à l'abri dans la roue de ses équipiers. Et juste derrière l'équipe, il y a le triangle qui se forme où tout le monde veut être. Ouais. Voilà.
Ouais. Lucho, danger pour Cavendish.
À partir du moment où Cavendish n'a pas d'équipier pour l'emmener et pour essayer de le remonter, c'est clair que il y a plus de risques pour Cavendish. Donc sans équipier, sachant que ses équipiers sont à 100% avec Wiggins et qui protègent Wiggins. D'ailleurs, Wiggins n'est pas tombé aujourd'hui. Donc voilà. Après, c'est vrai que Greipel avait toute son équipe devant. Donc automatiquement, Greipel n'avait pris aucun risque derrière. Donc on voit un peu la situation et on voit comment ça se passe entre l'équipe de Greipel et l'équipe de Cavendish, un sprinter avec ses équipiers, un sprinter qui n'a plus d'équipier. Donc automatiquement, comme je le disais, plus de prise de risque et plus de prise de risque et puis de chute, quoi. Ouais. Donc automatiquement, voilà ce qui s'est passé pour Cavendish.
Voilà
au final.
Ce qui s'est passé pour Cavendish. Dominique nous appelle au 32-16. Il voulait intervenir sur ce débat. Bonsoir Dominique.
Oui, bonjour à tous.
Qui nous appelle de Haute-Savoie, où nous irons bientôt, Dominique.
Hein. Venez vite.
Dominique, on a hâte d'y arriver dans les montagnes, hein, je peux vous le dire. Ouais.
Hein. Écoutez, nous on a hâte que vous veniez et venez, on vous est bien attendu. Il y aura toujours un énorme public, comme d'habitude.
Évidemment, dans les Alpes, ce sera énorme. Alors, votre avis sur Cavendish et sur les risques pris et sur sa position un peu dangereuse dans ce Tour de France et dans ce peloton, lui qui est esselé dans les sprints.
Oui, effectivement, lui, il est esselé dans les sprints, mais heureusement que c'est Cavendish, je dirais, parce que c'est un sprinter hors norme qui possède tellement de qualité, d'explosivité, de hargne, qui a un caractère tellement incroyable qu'il peut se permettre de ne pas avoir d'équipe et simplement se servir des équipes des autres. Mais il est évident que dans ce sprint-là, c'est un fait de course qui aurait pu se produire, même s'il avait été très très bien entouré et avec une équipe très structurée autour de lui, ça aurait pu se produire exactement pareil, parce que un de ses coéquipier peut tomber ou un autre coureur peut faire tomber un de ses coéquipiers et entraîner une chute comme on l'a vu. Donc en fait, c'est vraiment un fait de course. Je ne suis pas convaincu qu'à 3 km de l'arrivée, avec une grosse équipe autour de lui, il aurait pu éviter ça, si ce n'est en ayant pris, comme l'ont fait les lotos, les commandes. Mais on voit bien que c'est aussi dans la gestion de la course quelque chose qui peut arriver n'importe quand et ça aurait pu se produire encore plus en amont avec les lotos. Donc c'est assez difficile de dire que Cavendish est en danger. Et je dirais que finalement, parmi les sprinteurs, ce qui vient d'arriver, si ça arrive à Cavendish, c'est peut-être celui qui se sortirait le mieux de ce genre de situation par son son caractère et son tempérament de feu est hors norme. Et on pourra faire le parallèle plus tard avec Cadel Evans qui va souffrir avec une équipe moins forte que les Sky dans la montagne. Et Cadel va faire appel à ses ex-qualités de vététiste où il était très hargneux et seul. Et on va voir comment Cadel va se sortir de la montagne comme Cavendish va se sortir des sprints sans équipier.
Voilà une bonne analyse, Cyril. Dominique, on va l'engager comme consultant. Hein.
Bah déjà, hier soir, on avait quelqu'un qu'on a pratiquement engagé. Déjà, on va avoir trop de monde.
Ah, on va avoir du monde, on va avoir du monde. Mais bon, le tour est encore long. Hein.
Mais vous savez, c'est normal. J'ai couru contre Cadel Evans en Coupe du Monde de VTT. Donc, je connais bien, bien le petit Lascar.
D'accord, voilà. D'accord.
Voilà, en fait, on a que des spécialistes qui appellent.
Voilà, les spécialistes. Il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup en Belgique, il y en a beaucoup dans tous les pays. Et
il y en a plus en France qu'en Belgique. Hein. Oui, on est plus nombreux. On est plus nombreux.
Merci en tout cas, Dominique, pour cette analyse.
Merci à vous.
Merci et à bientôt en Haute-Savoie. Alors, Cyril, donc pas plus de danger pour Cavendish que s'il était accompagné de tout son train, comme cela avait été le cas.
Par obligation, il y a plus de risques, hein, puisque, on l'expliquait tout à l'heure, lorsque vous avez votre train qui vous emmène, souvent il vous emmène, il vous met en dehors de la fournaise et c'est dans votre trou, c'est dans la roue de Cavendish que tout le monde veut être. Et c'est là où ça frotte. Et là, pas bizarrement, mais de façon tout à fait logique, puisqu'on doit aussi. Protéger Wiggins, eh bien il n'a plus qu'un ou deux équipiers qui viennent dans le final. Il est donc obligé de courir là où c'est dangereux, là où ça frotte et là où quand un coureur fait une faute, eh bien vous emmenez tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Et la remarque de dire ça peut être aussi un équipier qui vous fait tomber, c'est aussi le cas aujourd'hui puisque c'est Bernard Hinault, il l'a pas fait exprès, hein, je vous jure.
Ah ben ça j'imagine, il va se faire engueuler par le patron ce soir. Hein.
Ceci dit, c'est peut-être Wiggins. On peut déplacer le problème, c'est peut-être Wiggins qui
a fait tomber Cavendish.
Non, qui a déjà perdu un équipier sur chute et qui vous dit que Cavendish et Hazel, ils vont pas demain ou après-demain suite à cette chute être dans l'obligation d'abandonner aussi.
Parce qu'on ne sort pas indemne Thierry d'une gamelle comme ça, surtout lorsqu'on doit faire des efforts pour le sprint demain. Cavendish va avoir des bleus et des courbatures un peu partout. Hein.
Oui, parce qu'il est tombé assez lourdement hein, quand même. Hein. On l'a vu qu'il était un peu sonné. Et comme disait Cyril en début de tour, après avoir chuté, il va peut-être avoir du mal à aller jouer encore les mêmes rôles dans les arrivées. Hein. Je pense pour demain déjà. Je ne sais pas si demain il va vouloir frotter pareil, même si Cavendish a un sacré caractère, et c'est ce que Cyril n'aime pas d'ailleurs. Hein. Ah, on sent quand même cette petite.
Non, mais connaissant Cavendish, il n'y a pas de soucis.
Tu dis n'importe quoi.
Mais non.
On en reparlera.
Comme d'habitude, toi, tu dis jamais rien.
Ouais. Tiens, Frédéric nous appelle également au 32-16 pour nous parler du sprint des grosses cuisses du peloton. Bonsoir, Frédéric.
Oui, bonsoir, la Dream Team.
Ah, c'est sympa. Bonsoir. Frédéric, oui, Frédéric, avec un E à la fin, Frédéric.
Voilà. Il fait surprendre là. Hein.
Ah ouais. Ben oui, voilà.
Je ne m'attendais pas là.
Oui, non, mais parce qu'il pense qu'il n'y a que les hommes qui peuvent appeler.
Mais non, mais au contraire, je suis ravi quand des jeunes femmes nous appellent pour nous parler.
Tu te raccroches aux branches là.
Mais pas du tout, mais je suis ravi.
Je suis une femme, c'est sûr.
Eh bien, c'est très bien. Ben, merci de nous appeler, Frédéric. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous?
Alors, moi, je dis que Cavendish, effectivement, maintenant qu'il est tout seul, ça va être dur pour lui. Pour les sprints, mais quand j'ai appelé, c'était aussi pour les chutes. Ouais. Et moi, ça fait des années que je regarde le Tour de France et je suis très surprise par le nombre de chutes qu'il peut y avoir depuis une dizaine d'années. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y avait quoi? Une, deux chutes par tour? Là, c'est une, deux chutes par étape. Et moi, je me demande si tous ces sprinteurs, mais il n'y a pas que, hein, tous ces coureurs en règle générale, ne prennent pas trop de risques, ne vont pas trop vite, ne font pas attention, ne sont pas assez concentrés. Je ne sais pas. Et je voulais aussi parler, j'ai l'expérience, j'ai mon fils qui a fait du vélo à un certain niveau, qui l'année dernière, sur un tour, est tombé assez lourdement. Il a arrêté le vélo, ça l'a stoppé. Et moi quand je les vois, et c'est vrai que c'est peut-être encore plus impressionnant quand c'est les sprints à l'arrivée, mais je suis là, oh là là, oh là là, oh là là, quand on les voit, les vagues qu'il peut y avoir, les coups qui se donnent et tout, c'est voilà, c'était plus en règle générale par rapport aux
chutes. D'accord. Cyril, y a-t-il plus de chutes, comme le dit Frédéric, actuellement qu'il y a 20 ans?
Je vais répondre, mais la réponse vous la connaissez. Ce qui me choque quand même, c'est quand vous dites est-ce qu'ils vont pas trop vite.
Le but, c'est d'aller le plus vite possible.
Le but, c'est d'aller le plus vite possible.
Il n'y a pas comme en Formule 1 des manières de réduire l'allure. Hein. On ne peut pas brider les coureurs.
Avec toutes les améliorations qu'il y a eu au niveau du matériel, au niveau des vélos, les vélos sont de plus en plus légers, sont de plus en plus performants. Les athlètes aussi, mine de rien, c'est plus du tout les mêmes préparations physiques qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans aussi. Il y a ça. Hein. C'est sûr qu'ils vont plus vite. Hein. C'est évident qu'ils vont plus vite. Est-ce qu'ils vont trop vite? Bah non, parce que le but du jeu, c'est d'arriver le premier. Mais vous voyez ce que je veux dire.
Alors, le problème des chutes, de l'augmentation du nombre de chutes, alors c'est peut-être pas l'augmentation du nombre de chutes d'ailleurs, c'est plus le nombre de coureurs dans une même chute. Alors, il peut y avoir effectivement la vitesse, mais je crois que le gros problème, c'est les oreillettes.
Et les
Non, c'est pas le nombre de coureurs au départ.
On va revenir aux oreillettes.
Vous avez beaucoup moins de chutes dans les courses où il n'y a pas d'oreillettes que dans les courses où il y a oreillettes. Et je crois que c'est un coureur qui disait tout à l'heure.
Mais là, Cyril, franchement, à 2 km de l'arrivée, lancés comme ils étaient, à toute blinde, est-ce que le fait d'avoir des oreillettes ou non aurait changé la situation?
Non, mais les chutes ne sont pas que dans le sprint. Il y a toujours eu.
On parle
à 40 km de l'arrivée, quand vous voyez, là, à un moment, je regardais sur l'écran, quand la pluie a commencé à arriver, avant même qu'elle arrive, on voyait des groupes de 5 ou 6 coureurs de la même équipe qui remontaient pour venir se placer à l'avant. Ça veut dire que le directeur sportif, sachant qu'il pleuvait quelques kilomètres plus loin, dans l'oreillette à brailler, tous devant, la pluie tombe. La route va être glissante, vous remontez tout de suite. D'accord. Et en principe, il ne dit pas aussi gentiment que ça. C'est, vous allez remonter tout de suite. Donc tout le monde remonte. Et là où il peut y avoir que 8 coureurs de front, eh bien on va en mettre 15. Donc ça va par terre.
Ouais. Donc c'est le nombre de coureurs aussi. Tu disais tout à l'heure dans le direct qu'il fallait peut-être réduire, mais ça c'était pour une autre raison, réduire le nombre de coureurs par équipe et peut-être augmenter le nombre d'équipes. Mais ça c'était une manière à ce que la course soit plus animée.
C'est un autre débat. C'est le fait qu'il n'y ait pas des monopoles d'équipes sur le tour, et en plus la plupart du temps il y a certaines équipes qui courent ensemble, donc c'est un petit peu gênant, quoi.
Lucho, ton avis sur tout ça? Je te sens en retrait sur ce débat.
Ça m'intéresse pas trop, j'étais pas sprinter.
Bourguet parle pas dans la montagne.
Non, mais ouais, je pourrais donner plus une opinion dans la montagne, mais c'est vrai qu'il y a peut-être plus de chutes qu'avant, mais bon, si on regarde 20 ans en arrière, il y avait autant de chutes 20 ans en arrière.
C'est
les circonstances de course, la nervosité.
Il y avait moins de coureurs dans les chutes, ça c'est important.
Il y avait moins de coureurs dans les chutes, mais après ça dépend du final de l'étape aussi. Hein. Ouais. Il y a plus de ronds-points, il y a plus d'îlots directionnels, c'est plus la même chose qu'avant.
C'est vrai que la géographie est différente.
Je suis désolé, on parle des ronds-points, tout ça. Moi, je veux bien. Sauf que quand vous faites la sinistralité des courses, il y a des assurances qui couvrent les licences, donc les fédérations. Les sinistres, ils ne sont pas sur les ronds-points. C'est sur les lignes droites. Aujourd'hui, c'est en ligne droite que ça chute. Un sprint, moi qui suis un ancien sprinter, j'avais horreur des longues lignes droites dans les sprints, parce que c'est là où il y a le plus de gamelles.
Parce qu'il y a
de l'aspiration, de la 20e position dans l'aspiration, ils sont capables de remonter.
Il y a des vagues.
Si vous mettez plus les vagues, si vous mettez deux ronds-points, chacun est à sa place. Et alors, après, vous ne remontez pas.
Jean-François Pécheux parlait également tout à l'heure de l'indiscipline des coureurs. Ce matin, au briefing, il leur a dit d'éviter de jeter les bidons comme ça en plein milieu du peloton. On l'a vu l'autre jour, un coureur jeter son bidon sur la route. Ça aussi, Thierry, c'est très dangereux.
Oui, on l'a vu plusieurs fois. D'ailleurs, les coureurs dans les tout derniers kilomètres jettent leur bidon sur les côtés et qui revient sur la chaussée au risque de faire tomber ses collègues.
Les bidons sont vides, ils peuvent les garder sur le bidon. C'est pas 10 grammes qui va changer quoi que ce soit.
Et puis au contraire, quand tu lances le sprint à la rigueur, si t'es lesté, tant mieux. Je pense qu'il y a aussi une indiscipline. Il y a plus de patron peut-être dans le peloton, et tout le monde.
C'est ce que Pinot disait tout à l'heure. Il disait c'est l'anarchie dans le peloton.
C'est ce qu'on disait. Quand il n'y a pas une équipe qui emmène et qui en impose, tout le monde veut aller faire sa place. Même les non-sprinteurs. C'est là que ça commence à être dangereux. Ouais. Parce que les non-sprinteurs viennent frotter un tout petit peu et boum, ils sont moins à droite que les autres et ça va au tas.
Ce que disait Pinot tout à l'heure, Thierry, exactement, il disait que non seulement les équipes de sprinteurs tentent de remonter leur leader pour le sprint, mais également les leaders du général, pour les protéger, les mettre à l'avant. Et ça, avant, ça se faisait peut-être pas. Enfin, je sais pas, si quand même, on protégeait les leaders du général, on les faisait monter en haut de peloton, même avant un sprint.
Un petit peu quand même. Pour éviter les cassures.
La plupart du temps, certains sprinters, ça a changé un petit peu la façon d'emmener les sprints depuis une dizaine d'années. Mais vos équipiers vous aviez vos équipiers qui vous amenaient à la borne, quoi, à la flamme rouge, et après ils se garaient, quoi. Et vous gardiez un ou deux coureurs qui étaient vos poissons pilotes pour lancer le sprint.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est toute l'équipe qui monte, c'est pas un seul coureur, sauf pour Cavendish. Mais regardez, vous aviez les Green Edge, qu'on parlait des lotos tout à l'heure, il y avait les Green Edge aussi qui étaient côté droit de la route, et ils étaient sept en file indienne.
Ouais.
Il y a juste Peter Sagan qui avait pas d'équipier, enfin qui avait juste deux équipiers, dont un qui est allé par terre d'ailleurs.
Et lui, il évite toutes les chutes, hein. Et comme Cancellara, ils sont très forts pour éviter les gamelles.
Bah, tant mieux pour eux. Hein.
Il y avait les Lamprey aussi.
Il était limite, Cancellara. Il était limite, Cancellara, à un moment donné.
J'ai cru qu'il y allait.
On va remercier Frédéric en tous les cas de son avis. Merci Frédéric d'être intervenu.
Merci à tous, et j'espère à bientôt.
Et bien, à bientôt
Frédéric.
Vous nous appelez, le 32-7. Si vous voulez, dans l'après-midi, on est là aussi. On est à l'antenne, si vous voulez nous faire un petit coucou. On serait ravis d'entendre votre douce voix.
Si on passe par chez vous, venez nous faire carrément un coucou sur la ligne.
Ah ben, ce sera encore plus sympa. Antonin nous appelle, lui aussi de la région Rhône-Alpes. Bonsoir Antonin.
Bonsoir la Dream Team.
Bonsoir.
Les Rhône-Alpins sont là.
Ah, les Rhône-Alpins.
Ardéchois.
Un voisin.
Un cœur fidèle.
Exactement.
Ardéchois, cœur fidèle.
Alors, Antonin.
Qu'est-ce qu'il dit, l'Ardéchois?
Vous êtes compagnon du Tour de France?
Je vais suivre l'arrivée à Nonnet avec.
De l'Union compagnonique, là. Vous n'avez pas fait votre Tour de France et fait votre.
Pourquoi tu demandes ça? Mais qu'est-ce que tu
fais? Ardéchois, cœur fidèle, ce sont les compagnons du Tour de France.
Tu pètes un câble, Cyril, ou quoi?
D'accord. Bon, alors, on va revenir à notre débat, Antonin.
Exactement.
Et les premiers coureurs en 1903, la plupart étaient.
Lucho.
Vas-y.
Alors, Lucho.
Antonin, d'abord.
Antonin, vas-y.
Alors, moi, je tiens, en fait, à dire que la chute de Cavendish, elle n'est pas surprenante, sachant que c'est un pistard. Il a l'habitude de frotter, c'est un peu les règles du jeu. Il a l'habitude de s'amener tout seul au sprint sur les courses au point par exemple, ou des choses comme ça, et donc je pense pas que ça le touche pour les jours futurs, quoi, pour les étapes futures.
Non, mais demain il va frotter autant que les autres pour gagner, hein, ça c'est clair. Hein.
Exactement, exactement.
Que Thierry.
On va attendre demain.
On se demande
la question.
Ouais.
Moi, bien sûr que j'aimerais bien qu'il aille gagner demain. Mais va-t-il aller sprinter
C'est le directeur sportif qu'on a interrogé tout à l'heure à l'arrivée. Thierry disait il est très énervé. On l'a vu jeter son vélo en lâchant un gros fuck à l'anglaise.
Son habitude.
Et ses directeurs sportifs nous ont dit vous inquiétez pas, il va revenir encore plus motivé demain.
Ouais, plus
t'avais l'oreillette, Christophe?
Non, c'est les reporters qui. Vous savez qu'il y a des reporters, mon cher Luc, avant qui travaillent après la ligne d'arrivée pendant que vous allez bronzer et faire le malin à la télé.
On va tout savoir.
Pour BFM Télévision.
Voilà. Bon, ben merci Antonin en tous les cas. On se retrouve à Annonay alors.
Merci Antonin. Viens nous voir à Annonay.
Dans l'Ardèche.
Sans problème.
Ce sera dans
zone technique, camion rouge.
Cyril le voit souvent sur les cyclocross aussi.
Ah oui, c'est sa spécialité.
Il est partout. Merci en tous les cas. Voilà pour notre premier débat. On va revenir évidemment dans un instant. On va évoquer l'étape de demain. Là aussi, c'est du sprint entre Rouen et Saint-Quentin. On va évidemment faire le récapitulatif des paris avec quelqu'un qui a très bien marché aujourd'hui. C'est Luc Leblanc. Il avait plusieurs choix et malheureusement, en attendant, comme tous les soirs, nous allons vous offrir des paires de lunettes
Vision Plus.
Du Tour de France.
Les opticiens Vision Plus vous offrent vos lunettes de soleil Tour de France sur RMC.
Elle est pas facile celle-là.
Pour gagner, il faut répondre à la question suivante. Qui a remporté le sprint intermédiaire aujourd'hui à Fécamp au kilomètre 140? Si vous pensez que la bonne réponse c'est Anthony Delaplace, vous envoyez A par SMS au 732-16. Et si vous pensez que la bonne réponse c'est Yukiya Arashiro, vous envoyez B par SMS au 732-16. Bonne chance, l'intégral tour revient dans une minute.
RMC, intégral tour. Christophe Cessieux.
Et oui, l'intégral tour jusqu'à 20h, c'est la dernière ligne droite du jour, évidemment, après la quatrième étape de ce Tour de France entre Abbeville et Rouen et la victoire tout à l'heure du gorille de Rostock nommé André Greipel. On a évoqué il y a quelques instants la chute de Mark Cavendish. On verra demain s'il prend le départ de la cinquième étape. A priori, ça n'est pas trop grave pour Mark Cavendish, qui en a connu d'autres. Hein. Le bad boy s'est frotté, il a frotté également dans les pubs. Et bref, on ne se fait pas trop de soucis pour lui, il sera là demain, même si évidemment il y a les Jeux Olympiques en ligne de mire et qu'il voudrait peut-être pas trop s'entamer avant les Jeux, mais en tous les cas, a priori, il devrait être là demain pour prendre sa revanche. Alors justement, l'étape de demain, on va en parler parce qu'il est l'heure de parier sur RMC dans l'intégral tour.
Les paris RMC, Tour de France.
Et ce soir, Benji, comme tous les soirs, est là pour récapituler nos petits pronostics. Bonsoir Benji.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Benji. Benji.
Alors, il y avait quand même un cas particulier aujourd'hui, Benji. Ça nous a animé une longue partie de l'après-midi. C'était le cas Luc Leblanc, qui, voyant que son favori d'hier, Jérémy Roy, n'était pas dans le coup, a décidé, a demandé. Il a donc demandé d'avoir une deuxième chance et il nous a donné Kittel. Alors, je voudrais juste lui faire remarquer que Kittel a terminé 187e et que Jérémy Roy a terminé 190e. Donc, ils étaient dans le coup, tous les deux. Ils étaient au coude à coude. Tu vois, Lucho ?
Il est facile de changer.
De toute façon, tout le monde a perdu.
Kittel a fini à 4-5. 58, Jérémy Roy est dans la chute.
Ouais. Voilà. Oui, voilà. Ils sont à trois places.
Et comme vous, vous avez donné Cavendish, certains d'entre vous, et il était dans la chute.
Ah, donc mais voilà. Qui a donné Cavendish?
Benji.
Il y avait Bourgui et il y avait moi, malheureusement, dans le coup aussi.
Alors que Greipel, c'était qui?
C'était Cyril Guimard et Christophe Cessieux qui intelligemment avait sucé la roue du droïde.
Attends, moi dans les sprints, si tu veux, je sais quelle roue il faut.
J'ai l'impression que je vais jamais suivre. Un jour, tu vas te prendre un râteau.
Et Christophe, c'est pas comme ça qu'on va gagner.
J'ai l'impression que.
Suçant les roues, c'est un crottant à la rigueur.
Non, mais moi j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir.
J'attends la montagne. Ah, non, mais je crois que là, t'es
non,
très
mal. Je suis mal, je suis très mal.
T'es un peu comme Thomas Vauclair.
J'ai encore le dossard rouge, moi, comme les dernières.
Tu vas pas changer les années. Non, mais l'an dernier, c'était pas mal. C'est toujours bien. Et tu pars sur les mêmes bases. Ouais. Super.
Bon, alors, on a gagné combien? C'était à combien? 4,80
le classement, Benji, alors?
Alors, c'était une cote de 5 Greipel, donc 50 euros pour 10 euros. Du coup, Cyril récupère, ça l'a vexé, ce maillot jaune porté par Thierry Bourguignon. Ouais. Tu récupères ton maillot jaune, Cyril.
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour Bourguignon gagner vraiment, passer vert devant eux? Moi, à ma place, tu es à ma place, qu'est-ce que je dois faire?
Tu
là,
fasses un coup de rien à faire.
Tu joues Jérémy Roy jusqu'à la fin, en espérant qu'il en prenne une.
Jette-toi par terre, sous le chaud. Jette-toi par terre, c'est plus simple.
Transforme-toi en clou et va crever les roues.
Vous foutez pas de ma tronche, on fera les comptes à l'arrivée.
Lucho, si tu veux quelqu'un pour te conseiller, je te dirai combien je prends.
Bon. La modestie du petit Napoléon.
Qu'est-ce que tu disais hier, Napoléon?
Non, mais je rêve.
Et c'est le petit, hein, c'est pas le grand.
Ouais, là,
bon, allez, on s'intéresse à l'étape de demain. Cinquième étape, donc, entre Rouen et Saint-Quentin.
Moi, Cavendish.
On va écouter les cotes d'abord avec Benji.
2-10 pour Cavendish, favori évidemment. Greipel deuxième, 3-30. Matthew Goss est à 10. Peter Sagan à 15. Je vais prendre un petit risque parce que je suis pas beaucoup mieux que Lucho au classement. Du coup, je vais jouer Petacchi à 18.
Ah ouais, t'as raison, moi aussi, Petacchi.
Ah Lucho, mais tu as changé aucune personnalité, Lucho.
Non mais. Et tout à l'heure, non, il avait oublié qu'il y avait
Petacchi. Il faut bien que je me remette dans la roue, donc Petacchi.
Mais non, mais là, Lucho, il y a pire que Petacchi.
Il y a Galim Dianov.
Oui.
Vous êtes des ordures. Bon, moi, je vais à l'hôtel parce que ça va plus.
Et je pense que si tu prends Sanchez pour le sprint, c'est bien.
Non, mais Petacchi, je suis.
Alors, Petacchi, tu vas. Benji.
Allez, on y croit l'autre
chose. Cyril.
Moi, j'étais quand même bien tenté par Petacchi. Ah, mais puisque vous avez déjà été deux sur
ouais,
le
change,
coup.
Ouais, change, vas-y, change.
Moi, je suis pas un suceur de roue. Non, ben, je pense
attention
que...
de pas aller au tapis.
Non, je pense que je vais garder, je vais être fidèle à Greipel.
Tu vas être fidèle à Greipel, d'accord. Ouais. Donc Greipel
mais Betaki Greipel, à mon avis, c'est quand même là que ça, c'est autour de ça que ça tourne. Hein.
D'accord. Ok. Thierry.
Thierry Lucho.
Lucho, c'est déjà fait.
Ouais.
Ça nous a bien fait.
Non, mais il va le refaire.
L'interrogation que j'avais, c'était oui, Cavendish.
Dans quel
mais comme je sais que Cavendish est une balle, est
Cavendish,
un,
est un, pas Cavendish. Vas-y, je te perturbe.
Lucho, mais non, tu me perturbes pas. Quand on est dans un état second comme toi, on ne peut pas perturber quiconque.
Bon, Thierry, sois bon. Vas-y.
Eh ben, Cavendish, parce qu'une balle qui tombe, ça rebondit encore plus le lendemain.
Non, mais non, pas au lendemain d'une chute.
Ah,
comme
ben
ça.
Tu verras. On reparlera.
En plus il faut quand même te dire que les sprints, il va les faire quand il va être sûr de les gagner maintenant. Oui. Parce que pour le maillot vert, c'est fini.
Ben, il n'y a plus. Okay, il ne lui reste pas trop de place. Hein, non plus. Hein.
Donc Thierry, tu nous dis.
Ouais, mais t'as déjà Peter Sagan, il est à 147, Cavendish
oui,
est à 86.
Attends. Il est au-dessus. C'est cool.
Donc tu donnes Cavendish pour demain.
Oui.
Et ben moi je vais te suivre. Je change de roue pour demain.
Attention à la gamelle.
C'est bon, Benji, si on gagne, on revient, non ?
Messieurs et mesdames, les auditeurs de RMC.
Ah bah jouer, Napoléon jouer qui parle.
Greipel.
Mais on prend pas le maillot jaune si on gagne.
Ah non, si, mais on peut l'autre choix. Ah.
Et Cyril,
moi je,
de toute façon,
je
t'as
compte
raison.
Sur l'orgueil du champion blessé, voilà. Vexé, et qui va demain débattre.
J'allais voir le directeur de Petaki, moi.
Un sanglier blessé.
Je voudrais quand même vous dire que Cavendish
est dangereux.
Je voudrais dire que Cavendish, il a son poisson pilote qui est allé par terre aussi aujourd'hui.
Oui, oui.
Ouais, on verra. Ouais, non, mais avec moi, je le sens bien.
On s'appelle pas Lucho à changer.
Ouais,
et tous les jours, on porte la poisse à un coureur du peloton. Hein, je rappelle Anthony Martin, Cavendish. À chaque fois, il y a quelqu'un qui t'aile. Tous les jours, on porte la poisse.
Il n'y a que Lucho qui porte pas la poisse. Mais bon, 190e et 197e, on va essayer de faire mieux demain. Merci Benji, en tous les cas.
À demain.
Salut Benji. On se retrouve en début de direct, aux alentours de 15h20, 15h30, pour voir un petit peu ce qu'il en est dans l'étape de demain. Dans l'étape de demain, on va la découvrir, cette étape.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Dédé est là avec Léon, son gros camion.
Et avec Léon, mon gros camion.
Qui va mieux.
Ouais, il est
qui a
bien,
récupéré.
Là.
C'est la moto RMC aujourd'hui qui a eu un peu de mal, mais bon.
C'est réparé.
Elle va mieux aussi. Elle va mieux aussi.
Non,
alors, mon cher Dédé, tu nous avais annoncé la pluie, il y a eu un orage, hein, c'est tout. Hein.
Bah, c'est pas mal.
Bah oui,
une
minute.
C'est pas mal, hein, c'est mieux que certains parieurs quand
et
même.
C'est pas trompé.
Dois-je vous rappeler.
Demain, il y a de la pluie, mon bon monsieur.
Absolument. Il y aura
de la météo.
Peu de pluie, 18, 20, 22 degrés dans la journée, avec un petit peu de pluie. Des averses limitées, surtout en fin de journée vers l'arrivée, mais ça sera vraiment des petites pluies, logiquement s'il tombe des hallebardes,
pas de doudou,
ça sera l'horreur.
Et puis c'est plat comme une limande.
Oui, hein, il n'y a absolument pas de col, bien entendu, il n'y a même pas une côte demain, donc c'est plat et c'est long comme un castor. 196,5 km pour la précision, à travers la Seine-Maritime, l'Eure, l'Oise, la Somme, pour une arrivée à Saint-Quentin dans l'Aisne.
D'accord.
Voilà le programme du jour.
S'il y avait une étape à conseiller aux auditeurs, aux téléspectateurs, ce serait celle-là que tu conseillerais pour aller à choisir dans le tour.
Pour aller faire quoi?
On s'endormir.
À quelle heure le départ, Dédé?
Tard plutôt.
Je ne sais
non, pas du tout. 12h30.
Ah d'accord.
12h30 okay. Le départ. C'est un départ tranquille. Hein.
Des dangers d'accord. Rapidement.
Bon, les dangers très rapidement. Ce sont quelques ralentisseurs en Seine-Maritime au kilomètre 61. La traversée de Breteuil avec des îlots directionnels du côté du kilomètre 109. Et puis un terre-plein assez délicat qui a à franchir au kilomètre 116.3 à Bequel.
Merci Dédé.
Très bien, monsieur Dédé. Bon, on se retrouve demain.
Bien sûr.
Hein, demain dans le direct.
Je serai là.
11h20.
Vous endormez pas pendant l'étape.
Non, on va essayer.
Non.
On compte sur toi.
Ça va être long.
Faire la sieste en nous écoutant. T'as la belle vie, toi.
Vous n'allez pas vous endormir alors que le tour commence à peine, monsieur.
Non, mais le coup.
Les étapes sont assez longues.
Aujourd'hui, je ne me suis pas endormi, moi.
Non, tu t'es gouré de route alors.
Comme les pronostics.
Voilà, mon Jeff, on te donne. On te passe le relais.
Oui.
Pour Before London.
C'est vrai.
On a beaucoup parlé des Jeux Olympiques cet après-midi dans le direct avec la
sélection.
La sélection, c'est demain.
demain. Hein. Bon, on en parlera peut-être demain soir, tiens, dans Before London, sur cette sélection française pour les Jeux Olympiques en cyclisme. Bah, ce soir, comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, vous connaissez désormais Before London, 20h, 22h sur l'antenne de RMC. Débat, info, polémique, invité de prestige sur l'actualité des Jeux à 23 jours, très exactement, de la cérémonie d'ouverture. Yannick Agnel, notre nageur niçois, sera avec nous en direct. Et Yann Cuchera, le capitaine de l'équipe de France de gymnastique. Alizé Cornet, notre seule française qui jouera le tournoi de tennis en simple aux Jeux Olympiques. Et puis on se rend direct de Reims parce qu'il y a pas mal d'athlètes français qui vont essayer de décrocher ce soir leur minima pour les Jeux. Et puis plein de débats et presque tous les sports, on va dire. 20h, 22h, ce sera dans ça tout à l'heure.